Deuxième étape, remonter sur Terre. Épisode 4. S'initier à la harpe pour mieux découvrir les dieux musiciens gréco-romains.
Nous quittons désormais les enfers pour revenir au monde de la lumière. Nous allons explorer le monde terrestre dans les mythes gréco-romains, car les divinités ne cessent d'y intervenir et d'influer sur la vie des hommes, notamment sur le plan artistique. Il y a bien sûr Apollon, ce dieu de l'harmonie qu'on voit souvent avec sa lyre. Il y a aussi les neuf muses qui inspirent aux hommes tous les arts. Mais aussi bien d'autres dieux musiciens, pour le meilleur et pour le pire.
Hymne à Hermès de Homère. Dès qu'il eut jailli du corps immortel de sa mère, il ne resta pas plus longtemps couché dans le berceau sacré. Mais, se levant, il chercha les bœufs d'Apollon. Puis, sortant de l'antre élevé, et, ayant trouvé une tortue, il posséda une richesse infinie. Certes, Hermès construisit le premier la tortue sonore qui s'offrit à lui auprès des portes de la cour, paissant, devant la demeure, l'herbe fleurie et marchant lentement. Et le fils utile de Zeus, l'ayant vu, rit. Et il dit aussitôt « Voici qui me sera très profitable et qui n'est pas à dédaigner. Salut, être aimable, compagne qui excite aux danses et aux festins et qui m'est apparue heureusement. D'où viens-tu, beau jouet, tortue qui vit dans les montagnes, à l'écaille variée? Mais, t'ayant prise, je t'emporterai dans ma demeure. Tu me seras utile, et je ne te mépriserai point. Et, d'abord, tu vas me servir. Il vaut mieux être dans la demeure, car il est dangereux de rester dehors. Certes, vivante, tu seras un remède à beaucoup de maux. Et si tu meurs, tu chanteras alors admirablement. » Ayant ainsi parlé, il l'enleva de ses deux mains, et il entra aussitôt dans la demeure, portant l'aimable jouet. Et, là, avec un burin de fer brillant, il arracha la vie à la tortue montagnarde. Il fixa des tiges de roseaux, coupées à diverses longueurs, et il les fit passer à travers le dos de la tortue. Puis, il tendit, autour, avec adresse, une peau de bœuf, et il adapta les deux bras et le chevalet, et il tendit ensuite sept cordes harmoniques en boyaux de brebis. Puis, ayant construit l'aimable jouet, il fit résonner chaque note à l'aide du plectre, et la tortue sous sa main résonna sonore, et le dieu, excité par son œuvre, chanta admirablement.
Eh bien, me voici dans une forêt de harpes. Je suis à l'espace Camac. C'est extraordinaire, il y a des harpes absolument partout. Pourquoi la harpe? Parce que la harpe, c'est vraiment l'instrument mythologique par excellence. Eh bien, je rencontre à l'instant celle qui va être mon guide ici, qui est Martha Power. Martha, vous êtes harpiste.
Oui.
Est-ce que vous pourriez d'abord m'expliquer quelle est la différence entre une harpe et une lyre?
Alors, la différence entre une harpe et une lyre. Pour ça, il faut que je remonte vers l'Antiquité pour expliquer un peu la naissance de cette famille d'instruments qui vient d'une idée unique, en fait, d'une corde qui est mise en résonance, attachée à une caisse de résonance, donc qui fait sonner la corde. Alors, comme pour l'humanité, on a plusieurs récits de comment la harpe est née. Celui qui me semble le plus sympathique, qui me parle le plus, c'est l'image d'un chasseur qui, avec son arc, qui lâche la flèche, voilà, et il entend un bruit. Et il trouve ça assez chouette, et donc il ajoute plusieurs cordes à l'arc, et puis ça fait un instrument. Et cette idée était déclinée en plusieurs différents instruments à l'époque. Donc on avait la harpe, qui était en forme, on va dire, de V ou de U sur son côté, avec des cordes qui étaient de plus en plus petites. Ensuite, il y avait la lyre et la sitar. Donc, c'est deux instruments qui sont très proches. On peut dire que la sitar, c'est une lyre qui est un peu plus améliorée.
Oui.
Et donc, c'était en forme de Y. Alors, donc, la grande différence entre la lyre Et la harpe de l'époque, c'est le fait que la lyre a des cordes de même longueur, oui, avec des tensions un peu différentes, alors que la harpe a des cordes croissantes. Voilà. Sinon, au niveau du son, bah, c'est un peu le même principe quand même.
Oui.
C'est, voilà.
Alors, dans quelle mesure, dans l'Antiquité, est-ce que la lyre et la harpe accompagnaient les chants? Comment ça se passait?
Je pense qu'ils étaient... On pouvait presque imaginer que la harpe et la lyre, c'était indispensable au chant. C'était tout le temps une partie de la musique de l'époque. C'est-à-dire que la musique, à l'époque, avait une place complètement différente dans la société qu'elle a aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, voilà, c'est un luxe, c'est un échappatoire de la vie de tous les jours. C'est un art, alors qu'à l'époque, la musique, elle avait vraiment une raison d'être qui était au même titre, elle était enseignée au même titre que les mathématiques, l'élocution. Elle servait à guérir, à inciter, oui, à la guerre. Il y avait même déjà à l'époque une classe de personnes, des musiciens professionnels qui existaient déjà. Ils avaient des concerts déjà, des concours de musique déjà. Et donc ça montre pour moi que l'instrument tel qu'il était là-bas et faisait vraiment partie de la culture de l'époque. Dans l'esprit des gens maintenant, on pense à la harpe, voilà, on pense à un truc céleste, complètement symbolique, du dieu, de la mythologie, mais... En réalité, je trouve que notre société aujourd'hui est plus aussi mystique qu'elle a été dans les temps avant. Il y a un aspect de notre vie aujourd'hui où la harpe, quand même, elle garde ce côté mystique, en fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, et un peu plus ici maintenant, il y a dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les choses comme ça, il y a tout un mouvement de musicothérapie. Et la harpe, c'est vraiment
génial.
L'instrument de prédilection.
Mais enfin.
Ils disent que c'est parce que les ondes sonores de la harpe, ça pénètre vraiment le corps, mais oui, ça se relie vraiment à l'utilisation de la musique dans le monde antique, je trouve. Où, voilà, ils utilisaient certaines modes pour guérir. Donc, c'est un peu la même idée qui revient.
Donc, voilà. Vous allez tout à l'heure, vous allez me guérir de tous mes tracas en jouant quelque chose.
Alors, donc, je vous invite à voir un peu tous les harpes qui sont exposées au magasin. Donc, d'abord, il faut que je vous explique les deux grandes sortes de harpes qu'on a ici. Il y a les grandes harpes à pédales. Donc, si vous voyez derrière, en bas sur le socle, il y a des pédales.
Mmh.
Et puis, les plus petites harpes que vous voyez un peu éparpillées à droite à gauche, ce sont les harpes celtiques à clapet.
C'est ça.
Voilà. Et donc, il y a derrière les grandes harpes à pédales et... D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chaque modèle, bah, comme des modèles de voitures, ils ont des noms. Donc, il y a ici, là-bas, c'est les Athénas. Ici, c'est les Atlantides. Donc, je trouve que ça se marie bien avec notre thématique.
Avec la mythologie, c'est magnifique.
Les petites harpes celtiques, c'est plus des noms qui se lient à la Bretagne, finalement.
Oui.
Donc, il y a des Hermines, il y a des Mélusines, des Corrigans. Voilà.
Ces harpes sont plus grandes que nous tous. Même avec mon chapeau, je suis plus petite que la harpe. Hein. Je ne savais pas que c'était si grand une harpe.
Oui, oui, c'est... voilà, mais ça, c'est les modèles les plus grands. Il n'y aura pas des modèles plus grands que ça. Il y aura peut-être certains qui ont une petite décoration dessus, qui vont ajouter 2-3 cm, mais pas plus.
Oui.
Voilà.
Elles sont tellement belles. Je m'extasie devant la beauté de cet instrument parce que sur ce que j'appellerais naïvement le corps de l'instrument, il y a des dessins de volutes, de fleurs, C'est incroyable. Ce sont des vrais artistes qui font ça.
Ah oui, tout à fait. C'est peint à la main.
Oui.
Oui. Oui, c'est des vrais artisans qui travaillent dans la maison Camac et toutes les autres fabricants de harpes aussi.
Maintenant, Martha, vous allez nous faire un très grand honneur. Vous allez nous jouer quelque chose.
Non, maintenant, c'est vous qui allez nous jouer quelque chose.
Oui. Mais je suis tombée dans un traquenard, mais je suis incapable de jouer de l'harpe, moi. Alors,
la harpe, en fait, ça a l'avantage. C'est pas comme la flûte ou le violon où on prend beaucoup de temps pour savoir sortir un son correct. La harpe, n'importe qui peut jouer plusieurs notes et ça sonne bien. C'est comme le piano ou la guitare, ça sonne tout seul, en fait. Après, il y a tout un côté technique qui est difficile, mais c'est un instrument qui est tout de suite assez plaisant à toucher et à jouer. Donc, je propose qu'on commence avec la petite harpe celtique,
oui,
donc, qui s'appelle Ulysse.
Ulysse.
Voilà.
C'est trop merveilleux, ça.
Ça va nous envoyer en voyage quelque part. Alors, je vous explique. Donc, déjà, je vais descendre le tabouret au plus tard. Donc, allez-y, mettez-vous sur le tabouret.
Je suis très, très impressionnée.
Et donc, la harpe, vous allez ouvrir un peu les jambes.
Oui.
Et la harpe, elle va se poser un sur le genou, un peu sur l'épaule.
Mais oui, c'est
voilà.
Vrai, comme ça. C'est très agréable.
Voilà, oui, et en fait, ce qui est agréable, c'est qu'on a le corps qui résonne
oui.
entre les bras, entre les jambes, contre le corps. Donc, on sent vraiment le,
oui.
voilà, la musique passer par nous. Alors, maintenant, je vais expliquer un peu le mécanisme d'harpe celtique. Il y a des cordes, donc de couleurs différentes. On voit les rouges, les blanches, donc sans couleur, et les noires. Alors, les rouges, ce sont les dos.
Ah, ça, alors.
C'est comme ça qu'on peut
oui.
se repérer, parce que sinon, si toutes
ben
les notes avaient la
sûr.
Même couleur, ça, c'est difficile. Et donc, les noirs, c'est les fa.
Hmm.
Donc, si on suit du do, on fait do, ré, mi, on tombe sur le fa qui est noir, sol, la, si, on retombe sur le do.
Incroyable.
Donc, ça fait une gamme. Alors, les clapets,
oui.
en fait, c'est un petit levier en métal. Et quand je lève le levier, il y a un bout de métal qui pince la corde. Et donc, en fait, en pinçant la corde, elle arrête la vibration de la corde. Parce que la corde, elle est attachée sur la caisse de résonance et en haut, elle est attachée sur une cheville. Et donc, le levier, il pince la corde un peu plus bas que la cheville. Donc là, si la corde, si je la mets en vibration avec le levier descendu, ça fait une note. Maintenant, si je raccourcis la longueur vibratoire, je ne sais pas si c'est un mot de la
oui,
corde.
Oui, ça existe.
Voilà. Ça fait
ah
une note
oui.
un peu plus aiguë.
Mais oui.
Donc, un demi-ton.
Waouh.
Comme ça, ça fait que sur la harpe, on peut avoir 36, je crois, 36 cordes. Et puis, avec chaque corde, on peut faire deux notes différentes. Donc,
oui.
ça évite d'avoir une harpe qui est vraiment énorme parce qu'elle a deux fois
oui.
plus de cordes. Donc, maintenant,
très
j'ai assez parlé. Vous allez jouer.
Oui.
Donc,
je fais la canne.
Voilà. Allez-y, caressez-la juste au début pour...
Oh. Oh, c'est merveilleux. Ah non, là, j'ai tout raté.
Non, ça va,
c'est parce qu'elle vibrait encore, c'est
oui,
ça
voilà.
Donc, il faut attendre qu'il ne vibre plus.
On peut aussi arrêter les vibrations en mettant la main à plat.
Ah, c'est ça.
Étouffer. Maintenant, essayez de pincer la corde. C'est-à-dire, on prend une doigt et on tire. Voilà, comme ça.
Comme dans le shamisen. Shamisen japonais.
Japonais, oui.
On prend la corde comme ça.
Voilà.
Ah, c'est tellement beau. Et on sent vraiment... Cet
oui.
instrument vit.
Voilà, on sent vraiment les vibrations contre ça.
Ah, c'est très
donc la main gauche, elle peut jouer les cordes graves.
Oui.
Et la main droite joue les cordes aiguës. Comme ça.
C'est on... ça. Oh. C'est très émouvant.
Alors maintenant, essayez de pincer deux cordes à la fois. C'est-à-dire, on va prendre par exemple le deuxième doigt et le pouce ici. Donc,
oui.
voilà. Et maintenant, si vous pincez les deux à la fois.
Waouh! Ah oui!
Oui!
Ah, c'est génial! C'est très émouvant!
Oui!
Alors très, très émouvant!
Ce qui est beau avec cet instrument, c'est finalement notre corps qui crée le son.
Oui!
C'est pas le souffle ni rien, c'est vraiment la chair et
oui.
le bout des doigts,
oui.
la peau qui fait vibrer les cordes. Et donc, c'est vraiment une façon directe de créer le son.
Ah, c'est une histoire d'amour, c'est très très beau ça.
Alors, moi aussi, ce que je fais est extrêmement physique, bien que moins directement physique que ce que vous faites, mais moi, par exemple, je ne pourrais jamais créer avec le clavier d'un ordinateur. J'ai absolument besoin d'écrire au stylo. Il faut que ça sorte directement de ma main. S'il y a un écran entre ma main et ce que je crée, c'est... L'œuvre n'est plus physique, donc il n'y a plus d'émotion, donc il ne se passe rien.
Ouais, je pense que c'est comme les compositeurs qui composent à l'instrument et ensuite écrivent. Il y en a certains qui composent à la table.
Oui.
Et je pense que moi, même si j'étais compositeur, ça serait plus à l'instrument que,
oui.
qu'à la table. Oui.
On crée avec son corps, c'est
ouais.
tellement vrai.
Donc Amélie, maintenant nous allons passer à la harpe à pédales. Je vais vous initier à cet instrument. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus lourd.
Mon Dieu, ça fait presque peur.
Alors, pareil, asseyez-vous sur le tabouret. Donc là, c'est plus important de vraiment sentir que vous allez la tenir, on va dire, 60% avec les genoux et tout le reste avec l'épaule. Sinon, ça devient
d'accord.
assez lourd. Donc, je l'approche un peu. Voilà.
Quelle responsabilité.
Voilà,
wow.
les genoux qui tiennent un peu.
Ah, on le sent, là.
Voilà.
Là, on le sent vraiment. Donc, c'est une harpe extrêmement belle. Elle est très grande. Comment s'appelle cette partie, Martin ?
C'est la colonne.
La colonne est magnifique. Elle est sertie de on dirait d'iris en nacre, comme ça.
Oui.
Le pied aussi est décoré de ces iris de nacre et le corps ici est de bois clair avec des volutes végétales dessus. C'est vraiment une œuvre d'art. Ça, je pense que c'est tout simplement la Rolls-Royce de la harpe.
Oui, ça s'approche, c'est sûr. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, les cordes, le principe est le même. Il y a des cordes rouges et noires, pareil. Il y a cordes en métal, des cordes graves. Oh. Et par contre, ici, sur l'arbre, les cordes au milieu, ce sont des cordes en boyaux, comme à l'époque ancienne, justement.
Des boyaux.
Voilà.
Je touche des boyaux.
Oui.
D'accord. Qu'est-ce que c'est beau.
Voilà. Alors maintenant, on va faire la chose typique que tout le monde a envie de faire sur l'arbre. Je vais mettre les pédales. Bah, je vais vous expliquer les pédales tout à l'heure. Maintenant, on va faire une glissade.
Donc, une glissade?
Voilà, une glissade. Ça s'appelle vraiment comme ça, glissando. Et donc, on va prendre le pouce. Et puis, il va donc fermer les autres doigts. On les pointe, voilà. Et maintenant, on va glisser le pouce.
Ah, c'est
voilà.
Beau!
Et le deuxième doigt qui sort. Et c'est lui qui monte.
Oh, voilà. C'est trop merveilleux! Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on imagine le son de la harpe.
Oui.
C'est divin! Divin! C'est rigolo.
Oui.
C'est quelle invention absolument géniale. On voit tout de suite que c'est pas une grande artiste.
Non, non, mais c'est bien, c'est bien.
Génial. Chère Martha, maintenant que je me suis ridiculisée, vous allez nous jouer un morceau de Debussy qui est en rapport avec le dieu Pan. Le dieu Pan est cette créature de la mythologie mi-homme, mi-bouc. Il est hideux, il est velu. Il a des petites cornes, des petites oreilles de bouc, des sabots de bouc. Et il s'amuse, il fait des gaudrioles et tout. Il adore séduire les nymphes. Et là, il convoite une très belle nymphe qui s'appelle Syrinx. Et Syrinx ne veut pas de Pan. Pan lui fait horreur. Et comme, bien sûr, Pan ne la lâche pas, Syrinx demande à ses sœurs de la transformer en roseau. Et les sœurs l'exaucent. Syrinx devient un ravissant ensemble de roseaux. Mais Pan ne va pas s'avouer vaincu puisqu'il va couper les roseaux et les couper en divers tronçons de tailles différentes, les assembler ensemble avec de la cire. Et ça va donner la fameuse flûte de Pan. Ce morceau de Debussy que vous allez nous jouer, de quoi s'agit-il ?
Il s'appelle « Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été ». Alors, il fait partie d'un ensemble de morceaux de Claude Debussy qui s'appelle « Les épigraphes antiques », qui étaient écrites en 1916-17, par là. Et en fait, ils étaient publiés au tout départ pour piano quatre mains. Mais ce qui est intéressant, c'est que la version originale, c'était une sorte de musique de scène. Et donc, ce qui est intéressant musicalement, pour nous, c'était le fait que Debussy, pour cette toute première version, a fait une instrumentation assez originale. Donc, pour deux harpes, deux flûtes et celesta. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris cet arrangement pour deux harpes et je l'ai encore réduit pour pouvoir la jouer sur une harpe. Donc, c'est la version que je vais vous jouer maintenant. Alors, je joue cette œuvre aujourd'hui parce que nous avons fait un album qui s'appelle Ariadne Rediviva, donc qui veut dire Ariane racontée, parce que justement on raconte l'histoire d'Ariane. Et notre idée du départ, c'était que on est tous à peu près familiers avec certains épisodes dans sa vie. Donc on connaît le Minotaure, le labyrinthe, avec le fil d'Ariane. On connaît l'épisode d'Ariane qui est abandonné sur l'île de Naxos par Thésée. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Ariane parmi tous les personnages de la mythologie grecque? C'est parce que son histoire d'amour et d'abandon a vraiment résonné avec nous. C'était, et puis d'amour folle, un peu naïve, que tout le monde vit encore actuellement. Et donc notre idée avec cet album, c'était de remettre cette histoire très ancienne, donc qui est encore actuelle, sur des harpes, donc qui ont une espèce de lien dans notre imaginaire collectif avec l'ancien, avec les Grecs, mais aussi avec la musique contemporaine. Donc nous avons commandé des œuvres, des compositeurs que nous connaissons, qui sont donc encore vivants, pour illustrer chaque étape de cette vie d'Ariane. Et pour revenir à Debussy, pour faire le lien entre ces œuvres, on joue les épigraphes antiques. Donc on commence, on ouvre l'album avec « Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été ». Donc c'est un peu comme pour invoquer des muses, ces épigraphes antiques qui servent de lien entre les épisodes, un peu comme le chœur grec, qui commente ce qui s'est passé ou qui va se passer.
Ah oui, quelle bonne idée d'avoir choisi le mythe d'Ariane. Voilà un personnage dont on ne parle pas assez. Ariane qui d'abord est une femme douée d'un très très grand savoir. Elle est la seule qui va pouvoir sauver Thésée en la guidant dans le labyrinthe. C'est tellement injuste parce qu'elle sauve Thésée par amour et Thésée à ce moment-là ne demande pas mieux. Et puis il va l'abandonner. Martha, qui va la sauver ?
Il y a Bacchus ou bien Dionysos qui descend sur l'île de Naxos et qui la sauve, qui la sort de son désespoir. Il épouse, et il passe une vie ensemble, mais comme elle est mortelle, elle finit par mourir, évidemment. Et donc il jette sa couronne nuptiale dans le ciel et ça devient la constellation, la couronne d'Ariane. Et donc ce Bacchus, c'est un personnage vraiment incroyable parce qu'il est quand même à la fois lié à l'ivresse, à la joie totale, complètement folle, mais il arrive quand même à faire quelque chose de bien dans ce cas-là, de sauver Ariane peut-être de la mort elle-même.
Bacchus, que personnellement j'appelle plutôt Dionysos, c'est un de mes préférés. Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé. L'expression « née de la cuisse de Jupiter » nous vient de Dionysos, puisque jalouse de la belle nymphe, la femme de Zeus, Héra, tue Sémélé. Alors, mais Zeus veut quand même sauver l'enfant qu'il a eu avec elle. Et il prend l'enfant dans le ventre de Sémélé, il s'ouvre la cuisse et comme ça, Dionysos termine sa grossesse dans la cuisse de Jupiter, ce qui lui donne sans doute des pouvoirs particuliers. C'est un beau jeune homme aux cheveux noirs, qui est très étrange, qui est très difficile à situer parce que c'est vrai qu'il est le dieu de l'ivresse et tout, mais il a aussi des savoirs occultes. Vraiment, il est du côté de l'occulte. Je le trouve extrêmement fascinant. Pour mon goût, beaucoup plus fascinant qu'Apollon, qui n'est que raison. Dionysos, ce sont nos forces cachées, c'est notre inconscience, c'est notre folie, c'est pas seulement le désir hirsute, c'est tout ce que nous avons d'occulte en nous. Et je ne suis pas étonnée qu'Ariane soit sauvée par lui, parce que finalement, qu'est-ce que ça symbolise ? C'est qu'elle est sauvée par son instinct, par les forces obscures, par son inconscience sans doute.
Sur l'album, il y a des commandes sur chaque étape de la vie d'Ariane. Donc on a aussi fait une commande du coup pour ce moment où Dionysos vient. Donc on a appelé Bacchus, ça l'a voulu, voilà. Et donc écrit par Damialus, qui est d'ailleurs aussi romancier. Donc il a voulu faire sortir le côté dansant, un peu bancal de ce Bacchus, mais aussi, comme on a évoqué, le côté très sérieux et plus puissant en fait.
Passionnant, vraiment, comme vous avez eu raison de choisir ce thème. C'est un morceau que nous allons entendre ensemble. tous ces dieux sont totalement d'actualité, je crois, pour tout artiste aujourd'hui, et singulièrement pour moi, mais c'est très exactement ce que dit Nietzsche. Quand on crée, nos muses à nous, ce sont les forces que nous ressentons en nous, et il faut sentir en soi et Dionysos et Apollon. Ce sont vraiment les deux pôles de la création. À une extrémité, il y a Apollon, à l'autre extrémité, il y a Bacchus, puisque Apollon, c'est la création équilibrée, ordonnée, intellectuelle, très nette, très lumineuse, tandis que Dionysos, c'est l'ivresse, la création hirsute, la transe, l'absence de raison, la folie. Bon, il vaut mieux toujours partir d'Apollon, parce que quand même, avoir un petit peu de raison, un petit peu de sérieux pour se guider, pour avoir un plan, pour ne pas faire tout à fait n'importe quoi, c'est utile. Mais sans la force de Dionysos et sans la folie de Dionysos, créer est tout simplement impossible. Donc il faut convoquer en soi Dionysos et Apollon pour créer, quel que soit le domaine dans lequel on crée. En littérature, ça me paraît flagrant, mais je ne peux pas imaginer une forme d'art où l'on ne se place pas sous le double patronage d'Apollon et de Dionysos.